On a fait allusion tout à l'heure à la prédication de Christian de la semaine dernière. Et j'ai été très frappé par cette prédication. Elle m'a semblé particulièrement pertinente. Je crois que c'est un message de Dieu pour nous. Et parce que ces épreuves qui se prolongent, ces difficultés dans lesquelles plusieurs d'entre nous, et dans un certain sens, à des moments donnés, chacun d'entre nous sont plongés, c'est vraiment quelque chose auquel on a besoin de revenir, de comprendre, de recevoir les ressources nécessaires. Parce que les épreuves sont difficiles, mais aussi parce que les épreuves, elles sont exactement là pour nous aider à grandir. Alors si on ne fait pas attention à ça, non seulement ce sera plus difficile, mais on passe à côté de quelque chose d'essentiel. La semaine dernière, Christian nous a parler des épreuves, le fait que il faut prier pour en sortir, mais aussi il faut vivre la période dans laquelle on est pour y marcher d'une manière digne du Seigneur. Chercher Dieu, ses consolations, venir vers lui, l'écouter, obéir, mettre en pratique, puis aussi accepter les mystères. Voilà ce qu'il nous a apporté la semaine dernière qui est tellement important. Mais j'ai envie de continuer là autour. Parce que ces épreuves, c'est vraiment une chose qui peut être difficile, surtout quand elles durent. Sur la durée, c'est difficile. Une épreuve ponctuelle ou qui dure quelques jours, quelques mois, c'est une chose. Mais les épreuves qui se prolongent des fois toute une vie, comment on les gère? Et puis venir vers Dieu, mais souvent quand ces choses se prolongent, quand ces choses commencent à dominer sur nous, quand ces choses commencent... on n'est plus que centré sur cette difficulté, c'est une chose de dire qu'il faut se tourner vers Dieu puis chercher, mais si on commence à se méfier de Dieu, si on commence à se poser des questions sérieuses sur lui vu ce qui se passe, c'est sérieux, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce que j'ai pensé utile? C'est, comment dire ça, j'ai appelé ça regarder sous le capot. Pas seulement voir ce qu'on vit, nos circonstances, les réactions qu'on a, mais ouvrir le capot, voir ce qu'il y a dessous, voir ce que Dieu est en train de faire. Qu'est-ce qu'il agit? Voir sous le capot. Je me suis dit, et Jean-Marc l'a dit, bien souvent, franchement, notre compréhension des choses, elle est bien limitée. Moi, quand j'ouvre le capot d'une voiture, je vois un moteur, j'ai quelques idées sur comment ça fonctionne, mais il ne faut pas me demander trop. Et je trouve que quand on lève le capot de la pensée de Dieu, on entre dans une zone qui est encore bien plus compliquée qu'un moteur à explosion. Mais Dieu nous a donné sa parole. Mais Dieu nous a donné son esprit pour que quand même les choses puissent s'ouvrir pour nous. Alors ce matin, on va essayer d'entrer sous le capot. Mais je suis pas très ambitieux. On va prendre un seul verset. C'est un peu comme si on voulait aller dans un moteur et puis on va juste regarder, je ne sais pas, le carburateur peut-être. Et encore, quand un carburateur ne marche pas, moi je sais pas, je sais rien faire. Et on est très limité. Mais c'est important de voir ça. C'est important de comprendre. Si on comprend comment un moteur fonctionne, on conduira mieux, on sera plus raisonnable dans notre manière d'agir. Donc c'est vraiment important pour nos vies de voir un peu ce qui se passe sous le capot. Le verset que j'ai décidé de prendre, parce que c'est un verset qui m'a étonné depuis quelques mois, un verset que tout le monde connaît, je connaissais depuis toujours, mais j'avais jamais réalisé ce qu'il apportait. Je vais vous le dire, c'est dans Luc, chapitre 22, verset 31. À 33. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Et Pierre répond, « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi. » Et même jusqu'à la mort. Vous voyez de quoi il s'agit, vous connaissez ce cadre, c'est juste après là que le Seigneur ait institué la scène, il y a une dispute entre les disciples pour savoir qui serait le plus grand, d'un côté il y a tous les responsables du peuple, les souverains sacrificateurs qui se réunissent, qui sont en train de comploter pour se saisir de Jésus. Il y a toutes les négociations, tout ce qui peut se passer entre les autorités juives et les autorités romaines. Il y a tout un contexte difficile. Il y a ces disciples qui sont là, qui finalement qui n'ont pas compris grand-chose à ce qui se passait. La situation, elle est vraiment dramatique. Tout part à la dérive. Ces disciples sont là, ils comprennent pas, mais ce qui va se passer derrière, ça va être horrible pour eux. Tous leurs espoirs vont être déçus, ça va s'effondrer. Ils s'attendaient à ce qu'il soit le plus grand à la droite et à la gauche du Seigneur. Il règne sur Israël. Qui est le plus grand entre nous? Et puis tout à coup, tout va partir en quenouille. Tout va disparaître. C'est pas des situations simples. Et ben, voilà ce qu'on voit. Ça, c'est la situation extérieure. Et si on ouvre le capot? Eh bien, si on ouvre le capot, qu'est-ce qu'on voit? Jésus ouvre le capot pour eux. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour passer au crible comme le blé. » On n'aime pas tellement que quand on ouvre le capot pour voir et on entend des choses comme celle-ci. Non seulement c'est vraiment difficile, mais en plus, Satan s'en mêle. Il s'en mêle pour tous. Hein. Satan vous a réclamé tous pour vous passer au crible comme le blé. Satan est à l'œuvre là pour tous les disciples. Il est à l'œuvre sur Judas. C'est-à-dire avant que Satan ait entré dans Judas, et Judas a entré dans ce chemin pour trahir le Jésus. Et puis il est à l'œuvre pour tous les disciples, mais en particulier pour Pierre. Et puis Jésus lui dit, « Mais moi j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne disparaisse pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Mais le mystère quand même, la question c'est, pourquoi non seulement Satan s'en mêle, ça on peut bien le comprendre, mais vous avez remarqué, Simon vous a réclamé, ou on peut traduire différemment, Satan a demandé de vous passer au crible. Et ça, c'est une chose qui m'a frappé. Satan doit demander l'autorisation à Dieu avant d'agir pour rendre cette situation encore plus compliquée. Satan, il doit demander l'autorisation à Dieu avant de faire quelque chose. C'est quand même curieux. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. Moi, je n'avais jamais pensé. Satan ne peut rien faire, finalement, sans qu'il y ait l'autorisation de Dieu. Satan n'est pas du tout égal à Dieu. On a des fois dans notre image mentale, Dieu et Satan, il y a une espèce de guerre entre les deux, mais on a un peu l'impression, oui, Dieu est plus fort que Satan, mais ils sont un peu, quand même, dans notre esprit, au même niveau. Mais non, Satan n'existe que parce que Dieu le laisse exister. Satan est puissant, il agit de façon violente dans ce monde, il s'oppose de façon très réelle à Dieu, mais ce n'est pas un vrai combat. Dieu est toujours vainqueur, Dieu ne peut pas être perdant. Il est tellement plus vaste, plus grand que Satan. Satan est totalement contrôlé. Et c'est, franchement, c'est bizarre. On a de la peine à imaginer ça. Satan est en guerre contre Dieu, mais ce qu'il peut faire dans sa guerre, c'est finalement que ce que Dieu lui laisse faire. On a une idée bizarre du combat, fausse du combat. C'est pas un combat où Satan peut dominer sur Dieu. C'est un combat qui est à un autre niveau. C'est comme moi quand je regarde un carburateur. J'ai une idée de ce que ça fait, un peu, mais je sais pas vraiment comment ça marche. Et je crois que quand on pense à Dieu ou qu'on pense à Satan, ne croyons pas comprendre comment ça marche. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Mais la leçon est centrale, c'est que Dieu a le contrôle complet sur ce que Satan fait. Chaque acte, chaque méchanceté de Satan, elle est finalement permise par Dieu. Et c'est pas que Satan. Tout ce qui se passe est contrôlé par Dieu. Mais la situation dans laquelle sont les disciples, avec ces autorités qui sont en train de négocier pour réussir à attraper Jésus, à le mettre à mort, tout ce qui se passe là, si on lit dans le livre des Actes, au chapitre 4, le verset 26, les rois de la terre se sont soulevés, les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Écoutez bien, ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Toute cette méchanceté, c'est des choses que Dieu a décidé que devaient arriver. La situation catastrophique qui arrive à ce moment-là, elle est absolument et totalement et à 100% voulue par Dieu. Il accomplit son plan au travers de ces choses-là. Même l'action de Satan, là au travers, elle est totalement contrôlée par Dieu. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Si je suis dans l'épreuve, si je suis dans les difficultés, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Mais quelle image ça me transmet de Dieu? Quand je pense à ça, si je vois que Dieu, il permet Hérode, il permet Ponce Pilate, il permet Satan, et que je suis dans mon le truc où j'y comprends plus rien, où je sais plus, c'est quand même, on se dit, mais où est Dieu? Qui est Dieu finalement? S'il permet des choses comme celle-ci, s'il veut des choses comme celle-ci. Et c'est une bonne nouvelle. Puis d'un autre côté, si vous réfléchissez, si Satan était libre de faire tout ce qu'il veut, ben je ne sais pas si ce serait une bonne nouvelle. Je crois que le fait que Dieu soit au-dessus est quand même une bonne nouvelle. Des épreuves, mais des choses difficiles comme celles qui se passent là. Finalement, quel est le but? Pourquoi tout ça? Pourquoi Dieu a permis, voulu, décider à l'avance que les choses devaient se passer de cette manière-là au moment où le Seigneur va être crucifié? S'il a voulu, prévu dans nos vies des moments où tout part en quenouille, comme je disais tout à l'heure, pourquoi? Quel est le but? Il y a une épître dans la Bible qui répond de façon très riche à cette question. C'est la première épître de Pierre. J'aimerais juste vous lire quelques versets. Chapitre 1, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau au travers de la résurrection de Jésus-Christ. » Naître pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel cet héritage, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, si cela est nécessaire, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Pourquoi? Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous réjouissez d'une joie indescriptible, glorieuse, parce que vous obtenez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Dieu a un plan de bénédiction, un plan, il est bon, il veut nous donner une espérance, un héritage futur. Aujourd'hui, pour cet héritage futur, eh bien, il y a une épreuve, la valeur de votre foi éprouvée, elle est précieuse, elle a pour résultat la louange, la gloire est d'entrer là-dedans. Il y a un but à tout cela. Et l'épreuve, elle est un outil central dans la réalisation de ce but. Mais regardez, qu'est-ce qu'il y a au milieu de ce verset? Je l'ai lu très discrètement, mais c'est sur celui-ci que je vais me concentrer maintenant. Toutes ces choses qui sont devant nous, c'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, si cela est nécessaire, vous êtes, pour un peu de temps, attristé par diverses épreuves. Si cela est nécessaire, pour un peu de temps. Aucune chose qui arrive dans nos vies, que l'on voit de façon très négative, qui sont très douloureuses, aucune chose n'arrive de négatif qui n'est pas nécessaire. C'est seulement ce qui est nécessaire. On ne peut pas le juger ainsi, on trouve que ça nous dépasse, mais rien de choses négatives qui arrivent dans nos vies, je dirais rien des choses négatives et douloureuses qui arrivent dans ce monde qui ne soient pas nécessaires. Et non seulement nécessaires, mais qui ne durent pas plus longtemps que nécessaire. Et ça, des fois, on a de la peine à le comprendre. On aimerait tellement que les choses finissent. On comprend bien qu'elles sont là pour nous former. Mais pourquoi si longtemps? Et cependant, c'est le temps qui est nécessaire. Dieu est parfaitement sage, il est parfaitement souverain. Pour un peu de temps. Et si on réfléchit dans nos vies, ben, franchement, pour la majorité d'entre nous, les périodes heureuses, ou les périodes où, même s'il y a des difficultés, les périodes où on est content de vivre, les périodes positives, elles dominent quand même, pour la plupart de nous, très largement dans nos vies, sur les périodes si difficiles, lourdes et pénibles. Si cela est nécessaire, Dieu limite, Dieu n'est pas sadique, Dieu ne veut pas nous faire du mal ou rendre les choses plus difficiles que nécessaires. Et je crois qu'il y a une promesse ici, quand il est dit, si cela est nécessaire, et pour un peu de temps. Une promesse que Dieu, c'est pas son but, c'est pas ça, son désir. Il ne vous envoie pas des difficultés inutiles, non. Il ne veut nous donner que de bonnes choses. Non, je supprime ça. Mais pourquoi c'est difficile, si difficile pour nous de le comprendre? Pourquoi ça, penser à que Dieu qui nous envoie des difficultés, et encore des difficultés, et qui vont des fois dans des trucs catastrophiques, pourquoi c'est si problématique pour nous? Mais quand on voit des choses de l'extérieur, qu'est-ce qu'on voit à nous? Ben, la souffrance, c'est pour moi, pour nous, un scandale qui nous révolte. La souffrance, la difficulté, les choses qui font mal, qui sont fausses, qui sont douloureuses, qui sont injustes, ça nous révolte profondément. Et penser que Dieu peut permettre ça ou vouloir ça, c'est difficile. Quelle image on a de Dieu, je vous le disais tout à l'heure. La souffrance, c'est un scandale, quelque chose qui me révolte. Qu'est-ce qui est la cause des souffrances, finalement, toujours, marié à Dieu, même si c'est Dieu qui l'envoie, je vous l'ai dit, c'est quand même le péché. Mais si on réfléchit un peu, le péché est grave pour nous, plus pour les conséquences qu'il a, que pour le péché lui-même. Le péché, oui, c'est sérieux, mais on pêche légèrement, on oublie vite qu'on a péché, tandis qu'on ne souffre pas légèrement et on n'oublie pas vite qu'on souffre. Et si je vais maintenant, si j'ouvre de nouveau le capot, si je vais derrière, bien pour Dieu, le péché, c'est le scandale absolu. C'est, pour Dieu, si on veut, c'est une mauvaise façon de s'exprimer, mais c'est l'échec. Parce que c'est quoi le péché? C'est être séparé de Dieu. Péché, c'est faire ma volonté, c'est décider moi-même de ce qui est bon, et puis, dès la chute, c'est même la définition presque, ou la leçon de la chute, c'est, je veux être comme Dieu, c'est moi qui décide, je veux faire sans lui. Et ça, c'est une révolte contre Dieu, c'est passer exactement à côté du but pour lequel Dieu nous a créés. Il nous a créés, on l'a chanté plusieurs fois ce matin, mais pour sa joie, pour nous aimer, pour ses délices, il nous a créés pour être en relation des vis-à-vis de Dieu. Entrer dans la même relation que le Père a avec le Fils, c'est à ça qu'on est appelé. Et le péché, ben c'est refuser ça. Et ça, c'est quelque chose qui, je crois qu'on l'a dit, on l'a chanté aussi, quelque chose qui brise le cœur de Dieu. c'est quelque chose qui est contre Dieu. C'est vraiment lui, pour lui, le scandale, c'est le péché. Pas la souffrance. La souffrance, elle est voulue de Dieu. Après la chute, quand Adam et Ève se sont séparés de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Ben, par exemple, il dit à Ève, « J'augmenterai tes souffrances quand tu enfanteras des enfants. » J'augmenterai, c'est moi qui augmenterai ces souffrances. Ou « Je rendrai ton travail pénible, tu travailleras à la sueur de ton front. » Ce mal, cette douleur-là, c'est Dieu qui l'a décidé, c'est Dieu qui l'a donné. Et on peut multiplier les exemples tout au long de l'histoire. Le déluge, c'est Dieu qui l'envoie, c'est pas une... etc., etc. La souffrance, c'est pas une chose qui révolte Dieu, même si elle nous révolte nous. La souffrance, c'est l'outil de Dieu pour gérer le péché. La souffrance, c'est l'outil de Dieu pour gérer le péché. Il ne faut pas voir la souffrance comme une espèce de vengeance de Dieu parce qu'on pêche. Non, ça peut être présenté comme un jugement, comme une punition, mais foncièrement, c'est parce que Dieu est pour Dieu le péché est un scandale que la souffrance est là pour gérer le péché de multiples manières. S'il n'y avait pas la souffrance, s'il n'y avait pas cette chose qui nous déplaît si profondément, et je crois que c'est important que ça nous déplaise, s'il n'y avait pas cette profonde haine de la souffrance, ben, Jésus n'aurait pas pu nous sauver. C'est parce que lui a porté nos péchés, parce que lui, il a été meurtri pour nos iniquités. C'est parce que lui a souffert que le salut est ouvert. La souffrance, dans le cas de Jésus, c'est le chemin qui permet d'annuler le péché, de justifier Dieu, de libérer l'univers du péché. Sans souffrance, ça n'existerait pas. Christ a dû souffrir. La souffrance est l'outil de Dieu pour gérer le péché. C'est l'outil de Dieu pour limiter aussi. Il est dit dans Romains 8, verset 20, que Dieu a soumis la création à la fragilité, au néant, à ce qui ne va pas. Dieu a décidé de rendre toutes les choses difficiles. Pourquoi ? Pour que le péché ne triomphe pas. Pour que le mal, l'indépendance de Dieu qu'on a, c'est-à-dire de vouloir faire les choses sans Dieu, ne finisse pas bien. Finalement, Dieu veut limiter. Parce que son but, ce n'est pas que les choses aillent bien. Son but, c'est d'avoir une relation avec nous et que les choses qui vont bien viennent de lui, marchent avec lui. Sans lui, c'est le péché, c'est un scandale pour Dieu. Donc Dieu permet et envoie même les difficultés dans ce monde pour limiter le succès du péché. Ce qui ne veut pas dire que la souffrance est une bonne chose. Je l'ai dit, c'est un scandale pour nous, c'est une douleur aussi pour Dieu. C'est pas une chose qui est agréable à Dieu. C'est pas, j'ai dit plusieurs fois, Dieu veut la souffrance, oui. Mais qu'est-ce qu'il veut, Dieu? Il a deux volontés, si on veut. Il a une volonté de cœur. Il a ce qu'il veut faire, nous unir avec lui, nous aimer, être en relation avec nous, avoir un univers qui est rempli de beauté, de bonté, d'un univers dans lequel il n'y a absolument plus de péché ni de mal. Ça, c'est sa volonté de cœur. Mais il veut aussi, parce que c'est nécessaire à cause du péché, il veut des choses qui sont douloureuses, mais qui sont, on dit ça des fois, sa volonté permissive. Moi, je trouve, non, sa volonté de nécessité. C'est nécessaire, c'est le chemin nécessaire pour arriver à la volonté de cœur. Dieu n'a aucun plaisir à envoyer du mal. Il n'a aucune joie. Il souffre avec nous. Jésus a souffert. Aujourd'hui, chaque fois qu'on souffre, eh bien, le Saint-Esprit qui habite en nous rend Dieu, si on veut, conscient de nos souffrances. C'est pas indifférent à Dieu, mais il est prêt à payer ce prix parce que c'est nécessaire, parce que sans ça, sa volonté de cœur n'arriverait jamais. Un exemple, peut-être, c'est un peu comme des parents. Les parents, pour leurs enfants, ils ont envie que les enfants se développent, ils ont envie que les enfants soient heureux, ils ont envie que les enfants vivent des vies merveilleuses. C'est leur volonté de cœur. Mais des fois, les parents doivent punir. C'est leur volonté de punir les enfants, c'est leur volonté. Mais pour que les enfants apprennent et aient des vies bonnes. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il faut voir la souffrance comme quelque chose que Dieu doit utiliser et utilise, je dirais, sans plaisir. Mais simplement, c'est la chose absolument indispensable pour pouvoir atteindre les objectifs de Dieu. Mais comment recevoir cette réalité? Comment réagir face à ça? Et en particulier quand on est depuis longtemps dans des périodes difficiles. Franchement, dans les périodes vraiment difficiles, et je ne peux pas parler personnellement, mais dans ce qu'on peut observer, ça devient très difficile, vraiment, de faire confiance à Dieu. Et en particulier pour ceux qui ont une relation extrêmement floue et lointaine avec Dieu, ça éloigne de Dieu. Parce que finalement, les circonstances visibles, elles sont plus fortes que ce qu'on regarder sous le capot est souvent pas suffisant. Des grands raisonnements théologiques, ils n'ont pas beaucoup de poids face aux émotions liées à ce qu'on vit. Qui est Dieu dans ce cas-là? Comment croire Dieu quand vraiment je suis dans une phase où tout est catastrophique? Et souvent, et ça arrive, ces souffrances, au lieu de me rapprocher de Dieu, m'éloignent de Dieu. C'est pas évident. Comment y arriver? Comment faire pour ne pas se laisser prendre là au travers? Ben, il me semble il y a un niveau extérieur, ce qu'on a vu avec Christian, se tourner vers Dieu, écouter, obéir, accepter, ça c'est notre niveau. Mais ce niveau, il n'est possible que parce que, et je vais de nouveau ouvrir le capot, parce que qu'est-ce qui se passe? On a vu dans notre verset que Satan a demandé de cribler les disciples, et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? J'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Dieu a permis à Satan de cribler les disciples jusqu'au point où ça peut faire disparaître la foi de Pierre. Il lui a donné un espace de liberté étonnant. Et Jésus prie. Il ne prie pas Dieu pour dire à Dieu et limite un peu Satan pour que la foi de Pierre ne disparaisse pas. Non, il prie pour que dans cette liberté qu'a Satan, eh bien, comment dire ça, je retrouve ma phrase, la foi de Pierre ne disparaisse pas. Et c'est quoi la foi qui disparaît? Ben, c'est la connexion, la relation avec Dieu qui n'existe plus. La foi, c'est être connecté à Dieu, c'est faire confiance à Dieu, c'est une dynamique de relation avec Dieu. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Dans un certain sens, tout ce qui arrive à Pierre va couper ce lien, va faire disparaître sa foi. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il prie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui contient, qui rejoint ce pauvre Pierre à Dieu. Ce canal qui est fermé pour Pierre, eh bien Jésus l'ouvre, Jésus le maintient, Jésus le garde ouvert. C'est ça la prière, c'est garder la relation. Quand Jésus prie, eh bien il fait ce que Pierre aurait dû faire dans un certain sens. Il intercède, il crée la relation. Et finalement, il n'y a pas que quand des situations aussi extrêmes que celle-ci qui arrivent, où vraiment Satan a, on l'a, Dieu lui a permis de vraiment d'aller très loin, de couper cette relation, de faire tomber Pierre de telle manière qu'il est vraiment loin. Mais il n'y a pas besoin des extrêmes. Finalement, chaque fois que nous péchons, chaque fois que nous désobéissons, c'est des manières finalement de couper la relation avec Dieu. Et chaque fois que je pêche, chaque fois que je fais une chose sans Dieu, ben, moi, je coupe la relation. Mais Jésus prie, Jésus intercède pour moi. C'est pour prendre les expressions qu'on trouve dans les Romains, dans les Hébreux. Il intercède, il prie pour moi. Moi, je coupe la relation, moi, je la perds. Mais Jésus la maintient. Et ça veut dire quoi qu'il maintient la relation? Des fois, on a l'impression, quand on parle de Jésus prie pour nous, Jésus intercède pour nous auprès du Père, on a l'impression que Jésus est là, puis il retient Dieu de nous sauter dessus parce qu'on a mal fait. Franchement, j'ai eu assez longtemps cette idée en tête, mais c'est totalement faux. Le cœur, la pensée de Jésus, du Fils, et le cœur et la pensée du Père, de Dieu, c'est la même pensée, ils sont un, ils ont le même désir, ils ont les mêmes buts. Il ne s'agit pas de convaincre Dieu de ne pas s'occuper de Pierre. Jésus est d'accord que libérer Satan, c'était nécessaire. Il le sait, ils sont ensemble. Mais ce qu'il va faire, c'est maintenir la relation. C'est prier, ce n'est pas pour empêcher Dieu de se fâcher, mais c'est pour faire que nous, Pierre, on tienne, on ne lâche pas, nous. C'est ça le problème, c'est nous qui pouvons lâcher, c'est nous qui supportons pas. Eh bien, Jésus s'occupe de nous. Il n'a pas suffi qu'il ait la croix une fois. Il n'est pas suffisant que je me sois tourné vers Dieu, que je me sois converti, que j'ai fait la bonne prière. Non, il y a besoin continuellement de cette action de Jésus, de cette prière de Jésus pour qu'on puisse tenir debout, pour que les liens ne se coupent pas. On est sauvé, c'est vrai, mais on n'est pas sauvé comme une espèce de timbre qui est mis sur nous. On est sauvé parce que la vie de Dieu est en nous, on est sauvé parce que Jésus vit, on est sauvé parce qu'il nous maintient tout au long de notre vie. Et on pourra supporter l'épreuve, on pourra tenir ferme, on pourra s'approcher, on pourra... quelles étaient les étapes de Christian? Il y avait s'approcher, écouter, agir. On pourra s'approcher, on pourra écouter, on pourra agir uniquement parce qu'il y a quelqu'un dans le ciel qui maintient heure après heure, moment après moment, cette relation. Les épreuves nous écraseront systématiquement et nous écraseraient systématiquement si notre Seigneur n'était pas continuellement, moment par moment, en train d'entretenir cette relation entre nous et son Père. Je vous ai parlé tout à l'heure du but de tout cela qui était... au travers de ces épreuves, nous introduire dans cet héritage. Mais quel est le but présent de tout ça? Luc 22, c'était « Simon, Simon, Satan a demandé, vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi et même jusqu'à la mort. » « Quand tu seras revenu à moi, affermis mes frères. » Revenir. Revenir. Ça veut dire qu'on y était, qu'on a quitté et qu'on revient. Et revenir, ça veut dire qu'on a appris quelque chose. Il s'est passé quelque chose entre avant et après. Et ça, je crois que c'est fondamental. Une des raisons profondes de toutes les épreuves, c'est dans un certain sens qu'elles nous écartent de Dieu, qu'on s'éloigne, mais en revenant, on a appris une énorme chose, c'est la grâce de Dieu. Et cette expérience, elle est fondamentale. Et c'est l'expérience de Pierre. Pierre, il se roule les mécaniques, hein, je suis prêt à aller en prison, ben, 2 heures après, il va renier le Seigneur, et il sera démoli par ça. Et Jésus va revenir après sa résurrection et parler à Pierre, hein, Jean 21, lui disant, « Pierre, m'aimes-tu ? Paie mes brebis. M'aimes-tu ? Paie mes brebis. » Vous vous rappelez de ce récit-là. Et puis Pierre, qu'est-ce qu'il répond ? « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et ça, je crois que ça, le résultat de cette prière de Jésus, c'est que Pierre, il est resté en relation. Malgré tout ce qui s'est passé, le joint avec Dieu, il est resté. Tu sais que je t'aime. Et ça, c'est le miracle de l'œuvre de Jésus. C'est de maintenir, malgré tout ce qu'on peut faire, ce lien. Même tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Ou ici, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Je crois que Christian a aussi parlé du fait que ce n'est pas pour nous-mêmes qu'on passe par des épreuves, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est toujours en vue d'aider les autres. Parce que je crois qu'une des, comment dire, une des manières de voir ça, au centre de ce que Dieu veut faire par des épreuves, finalement, en nous reconnectant avec lui, en nous apprenant qu'on ne peut pas faire tout seul, qu'on a besoin de lui, c'est qu'il veut casser notre égoïsme. Un but de toutes les épreuves, c'est de casser notre égoïsme. Parce que c'est notre égoïsme le cœur du péché. Je veux pour moi et moi tout seul. Dieu veut casser notre égoïsme, ce qui nous permet d'aller vers les autres. Affermis tes frères, paie mes brebis. Les épreuves. Ouais, quand on passe par des moments difficiles, quand on vit ça, ouais, j'avais envie de dire ça, c'est un peu prétentieux peut-être, mais donner comme des conseils. J'appelle ça ainsi parce que franchement, cette situation est beaucoup plus compliquée que tout ce que j'ai pu dire. C'est beaucoup plus, je simplifie en disant juste ces choses-là. C'est le carburateur, pour reprendre mon image. Je dirais, en tout cas, mon expérience, ce qui est important, c'est d'accueillir les épreuves. Se focaliser, quand il y a des choses difficiles, sur le moyen de sortir de ces moments difficiles, c'est le plus sûr moyen de ne pas casser nos égoïsmes, de ne pas être débarrassé. Si je pense à moi parce que c'est difficile, eh bien là, il y a quelque chose qui ne joue pas, parce que je vais de plus en plus me focaliser sur le problème plutôt qu'autre chose. On a vraiment besoin de voir au-delà des difficultés. Et pour cela, et c'est là où mon expérience personnelle, je trouve, c'est important d'accueillir chaque épreuve comme venant de Dieu. Si incroyable qu'elle soit, si horrible qu'elle soit, l'accueillir comme quelque chose que Dieu a permis, oui, mais d'une certaine voulu de cette volonté de nécessité dont je parlais. Parce que si on ne croit pas à ça, si on n'a pas ce sentiment profond de la souveraineté de Dieu, et que ce n'est pas l'ennemi qui... Oui, c'est peut-être l'ennemi, mais autorisé par Dieu. Et quand on a cette certitude que les choses sont totalement contrôlées par Dieu, que ce qui m'arrive, je peux dire, mais Dieu en est 100% conscient, 100% des gros guillemets responsable, c'est des gros guillemets, hein, mais quand même, il laisse cette chose-là. C'est pas le hasard, c'est pas Satan, c'est Dieu. Et quand on peut accueillir les épreuves de cette manière-là, ça ouvre un chemin aussi pour recevoir de Dieu le secours. Au lieu de me concentrer sur comment sortir de l'épreuve, eh bien, je me concentre sur celui qui permet cette épreuve. Et ça change, en tout cas pour moi, fondamentalement les choses. Et puis l'autre chose aussi, ben, Jésus prie pour moi. Jésus prie pour moi. Moi, je ne peux pas. Moi, en sortir, moi, je ne peux pas. Mais il y a quelqu'un qui s'occupe de moi. Quelqu'un que je connais, parce que dans d'autres périodes plus simples, peut-être de ma vie, je l'ai appris à le connaître, je sais comment il est. Et tenir compte, savoir, c'est la foi. Et la foi, le Saint-Esprit fait cela. Il met ça en nous, cette certitude que Jésus s'occupe des choses. Mais pour recevoir ça, je crois que c'est absolument indispensable de réaliser que l'épreuve, les difficultés, elles sont totalement divines. Pas quelque chose qui échappe à un Père aimant, mais sage, et qui veut un bien qui nous dépasse tellement. On ne comprend pas, mais on peut lui faire confiance. Il y a un verset qui dit « Celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous, ne fera-t-il pas don de toutes choses avec lui ?» Jésus, il a donné sa vie pour nous. Mais dans ce verset, c'est dit « Celui qui n'a pas épargné son propre Fils. » Dieu lui-même, le Dieu créateur, le Dieu, la déité totale, si vous voulez, le Père aussi, a donné son Fils. Celui qu'il aimait, son propre Fils, c'est mis dans ce verset de Romains. Ça veut dire, pour Dieu, à quel point ça a été douloureux d'envoyer son Fils. C'est vraiment présenté comme la chose la plus maximum, puisque c'est la démonstration que toutes choses sont finalement pour cadeau de Dieu, sont bonnes. Il ne compare pas simplement les souffrances de Jésus pour nous dire, ben Jésus a souffert, donc tout est bien, mais le fait que Dieu ait envoyé son Fils, qu'il ait eu ce plan-là qui a été beaucoup plus douloureux pour lui que pour nous, eh bien ça veut dire qu'on peut avoir vraiment confiance en lui. Et réaliser la profonde, la totale souveraineté de ce Dieu-là dans nos vies, ben ça nous permet de tenir debout dans des circonstances qui seraient impossibles autrement. Parce qu'il est souverain et parce que Jésus intercède pour nous.